Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Solway et Coagula.
Magic is political. Magic is social. Magic is cultural. Magic is pretty much everything. This is the alchemical formula of Solway et Coagula.
Ce que nous allons vous représenter aujourd'hui compte 67 millions d'acteurs. Elle a pour décor les ronds-points de France, les réseaux sociaux et les Champs-Élysées. Elle compte 3 actes à ce jour, mais avec un peu de chance, un quatrième, et avec encore plus de chance, un cinquième, qui la transformera tout à fait en chef-d'œuvre classique.
C'est l'histoire d'une effraction de la réalité. Elle est jaune, elle est nombreuse, on ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle entraîne avec elle, dans une folle farandole, les idées et les espoirs. Le rideau se lève. Un homme, sous une lampe, est en train de lire.
Acte 1, carnaval.
Au cours de ma convalescence, j'avais acheté et lu pour la première fois Le Roi de Jaune Vêtu. Après lecture du premier acte, je me souviens avoir pensé que je devrais m'interrompre. Je me levai brusquement et jetai le volume dans la cheminée. Il heurta la grille et tomba ouvert devant l'âtre, éclairé par le feu.
Tous et bienvenue à l'heure des pros. Pour les uns, nous sommes le 13 juillet 1789. Le peuple est dans la rue, les Français sont en colère, le pouvoir d'achat baisse, l'argent manque, la grogne monte. Samedi, était-ce une révolte? Non, sire, c'est une révolution qui arrive. Pour les autres, cette jacquerie est dramatisée par les médias, instrumentalisée par quelques leaders politiques. Quelques manifestations de la France d'en bas ne sauraient ébranler la République s'ils n'ont plus de pain qu'ils mangent de la brioche. Gilets jaunes, une colère noire, on en parle ce matin et on en parle avec Elisabeth Lévy, vous êtes directrice de la rédaction de Causeur, avec Gérard Leclerc.
J'ai tout cassé les monoprix et j'ai brûlé tous les francs-prix. Et comme Macron ne disait rien, j'ai recommencé le refrain. J'ai décelé tous les pavés et j'ai trouvé où les jeter. J'ai renversé toutes les bagnoles qui stationnaient chez les bourgeois. Fallait pas me traiter de voyou, dire que j'étais infiltré. Si tu dis que des mensonges, je reviendrai la semaine prochaine.
Avec les Gilets jaunes, le seul constat qui tient, outre celui de l'insurrection, c'est celui d'un aveu total d'incompréhension.
Nous sommes face à une situation initiale, un pouvoir en place, dans toute son absurdité, mais qui réussit à faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'aucun autre chemin n'est possible.
Comme dirait notre chère Maggie. Et pourtant...
Il arrive cependant que le voile se déchire.
Comme dirait Lordon dans son dernier billet sur son blog dans le Monde Diplo, et qu'un élément déclencheur d'autre chose, on ne sait pas bien quoi, force le passage.
Et cette affaire de voile qui se déchire, de réalité qui éclate finalement, ça rappelle fortement quelqu'un, ce cher Rancière et ses histoires de fiction concurrente.
Ça se passe dans Le Spectateur émancipé et ça dit à peu près ça. C'est la fiction dominante, la fiction consensuelle, qui dénie son caractère de fiction en se faisant passer pour le réel lui-même et en traçant une ligne de partage simple entre le domaine de ce réel et celui des représentations et des apparences, des opinions et des utopies. La fiction artistique, comme l'action politique, creuse ce réel, elle le fracture et le multiplie sur un mode polémique.
Ce que nous dit finalement Rancière, c'est que le réel, c'est une histoire racontée par les dominants et qui finalement devient une fiction dominante qui joue comme un cadre, qui permet de donner ce qu'il est possible de faire, donc ce qu'il est possible de dire, donc le disciple, ce qu'il est possible de voir, le visible, et ce qu'il est possible de faire, le faisable.
Une seule virtualité donc qui se donne comme la seule alternative possible.
Et là, une représentation vient faire éclater toutes les autres. Et encore, c'est encore plus désarmant pour le pouvoir en place, parce que c'est juste une couleur.
cette couleur qui vient inquiéter la fiction dominante, c'est le jaune.
Et c'est Michel Pastoureau qui montre dans son article « Forme et couleur du désordre », le jaune avec le vert, ça ne s'invente pas. Ce qu'il montre, c'est que depuis le Moyen-Âge et même depuis l'Antiquité, le jaune est un or dégradé, un or devenu fou, une couleur de la marge et du ridicule.
Et c'est encore pire quand elle est associée au vert. Parce que le jaune et le vert, ça fait les couleurs du fou du roi, qui est cette figure carnavalesque d'un monde qui se retourne, où le bouffon vêtu de jaune devient le roi de jaune vêtu.
Acte 2. La bataille des champs.
Si je n'avais pas aperçu les premiers mots du deuxième acte, je n'aurais jamais continué. Mais comme je me penchais pour ramasser le volume, mes yeux se fixèrent sur les pages ouvertes. Et avec un cri dû à la terreur ou peut-être à une joie si poignante que j'en souffris dans tous mes membres, j'arrachai le volume au feu et retournai tremblant dans ma chambre à coucher où je le lus et le relus, tremblant d'une horreur qui parfois m'assaille encore aujourd'hui. J'espère que Dieu maudira l'auteur comme l'auteur a maudit le monde avec cette création magnifique et prodigieuse, terrible par sa simplicité et irrésistible par sa vérité. Un monde qui tremble aujourd'hui devant le roi de jaune vêtu.
J'ai tout démonté les chantiers. J'ai étalé des graffitis. J'ai tout brisé les belles vitrines, j'ai déchiré les relevés de compte. J'ai tout haché menu. L'économie c'est bien fini. J'ai repeint tous les policiers, j'ai bien bloqué tous les ronds-points. Fallait pas me traiter de voyou, dire que j'étais infiltré. Si tu dis que des mensonges, je reviendrai la semaine prochaine.
Après la bataille des Champs-Élysées, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la fiction dominante se défait de partout.
Que plus rien ne tient, que tout s'effiloche, que plus personne ne comprend rien, CNews, BFM TV, les experts sont paumés, les mots n'ont plus de sens.
Et puis, en plus, ce qui se passe, c'est que tout le monde peut être gilet jaune. Mais pour la fiction dominante, il ne faut surtout pas que ça soit possible. Il faut que les gilets jaunes soient des casseurs. Il faut préserver la barrière entre la salle et la scène.
Oui, il faut toujours que qu'on se retrouve face à une situation qui est en fait comparable. On est dans une bataille d'Hernani, où tout se passe comme si dans le public avait éclaté une révolte et que le spectacle était mis en péril par ces personnages autoproclamés, par ceux qui viennent de la salle et qui décident qu'ils ne veulent plus être spectateurs et qu'ils décident de monter sur la scène.
En plus, ce qui est rigolo avec la bataille d'Hernani, c'est qu'ils portaient des gilets rouges dans la salle.
Oui, aujourd'hui gilets jaunes. Mais les metteurs en scène dominants essaient coûte que coûte de maintenir la trame de cette fiction qui s'effiloche, qui ne tient plus.
Et Lordon ne dit pas autre chose dans son billet sur le monde diplôme. On vous lit un petit extrait. La chute d'un ordre de domination se reconnaît à la stupéfaction qui se lit sur les visages de ses desservants. Samedi, le spectacle n'était pas seulement dans la rue. Il était, et il dure toujours depuis, sur les faces ahuries de BFM, de CNews, de France 2, et d'à peu près tous les médias audiovisuels frappés d'incompréhension radicale. Que la stupidité ait à voir avec la stupéfaction, c'est l'étymologie même qui le dit.
Alors ce que nous dit ici ce cher Lordon, c'est qu'on a un discours dominant qui veut retrouver son sens, qui veut faire rentrer ce qui lui échappe dans des catégories de sens qu'il pourra maîtriser. Et aussi, il veut retrouver son hégémonie par ce biais-là, par les voies habituelles qui finalement ne suffisent plus, qui ne sont plus opérantes.
C'est des tentatives désespérées pour donner du sens à ce jaune qui n'en a pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de le faire tirer sur le brun.
Pour pouvoir essayer plus aisément de dénoncer des factieux ou des milices.
Ou alors on essaye de le rendre un peu plus orangé pour le faire rentrer dans les catégories rouges du mouvement social traditionnel.
Mais rien n'y fait, rien ne semble vouloir faire déteindre cette couleur improbable.
Acte 3, le roi en jaune.
Lorsque le gouvernement français saisit les exemplaires traduits qui venaient d'arriver à Paris, Londres, bien sûr, désira les lire. On sait de quelle manière le livre poursuivit son chemin, telle une maladie contagieuse de ville en ville, de continent en continent, interdit ici, confisqué là, dénoncé par la presse et l'Église, condamné même par les anarchistes littéraires d'avant-garde.
Je vous rappelle au règlement, monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît.
Aucun principe défini n'avait été violé. Dans ces pages empoisonnées, aucune doctrine élaborée, ni aucune conviction blessée.
La séance est suspendue.
C'est de ce mépris que je parle, et personnellement, je me suis toujours senti plus proche des ploucs que des branchés, dès lors même que, dès lors qu'être branché, c'est applaudir des mises en scène qui transforment les œuvres du répertoire en prospectus pour l'hospital.
Je méprise la violence, mais quelle est la violence de toutes ces personnes par rapport à la violence structurelle des élites françaises et mondiales ?
Qui parle ainsi des gilets jaunes ? Pamela Anderson. Dans une série de tweets hier, l'expert d'Alerte à Malibu a tenté d'expliquer la situation du pays.
Non, ce que je comprends surtout, moi, c'est l'exaspération des Français devant les taxes. Mais je dirais que les taxes sur l'essence, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Le problème, il est vraiment réel dans
J'ai
toute
tout
la France.
Renversé
Alors
les
ceux
poubelles.
Qui sont en province, qui ont vraiment besoin d'envoyer...
J'ai allumé des incendies. J'ai fait gazer tout le huitième qui s'en souviendra pour la vie. Fallait pas me traiter de voyou, dire que j'étais infiltré. Si tu dis que des mensonges, je reviendrai la semaine prochaine. Da 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 da.
C'est vrai que depuis le début du mouvement, on a l'impression de vivre dans la quatrième dimension.
Ah ben là, on est au pays de l'absurde, au pays du lol, on l'a bien vu aux réactions dans le studio, à entendre Balkany qui nous dit que les Français, il y a trop de taxes, évidemment.
Et puis Pamela Anderson qui se lance dans des analyses d'économie structurelle.
Jean Lassalle qui met son gilet jaune en plein milieu de l'Assemblée, face à tous les costards.
Et puis c'est qu'une partie de tout ce qu'on a pu récolter sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne vous a pas parlé de Paul Naref.
Dieudonné.
Alain Soral.
François Ruffin.
Édouard Louis.
Alors, tous les responsables de partis politiques de tous les bords qui y sont allés, Mélenchon, Wauquiez, Le Pen, tout ça.
Et puis, je ne vous parle pas des événements que j'ai vu passer, queer vénère en gilet jaune.
Et puis, de l'autre côté, on a Génération Identitaire qui s'y met.
Et puis, un petit freestyle de Niska dans Planète Rap.
Et toutes les chansons sur YouTube qui naissent de ce mouvement-là, toutes plus improbables les unes que les autres, de la variétoche française au rap vénère.
Et donc, on peut vraiment dire que
plus rien n'a
de sens.
Quoi. Enfin, on a des personnages qui se mélangent dans un théâtre devenu fou. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre. On a l'impression qu'on n'a plus aucun lien. Que le seul lien, c'est justement ce refus de la fiction dominante. Le lien qui lie Génération Identitaire, Pamela Anderson et Paul Naref, c'est ce lien de refuser de continuer à croire à ce que matraque... les dominants et leur laquais médiatique, pour reprendre leur don.
Et en fait, je crois qu'avant, on était dans une forme de suspension d'incrédulité. Enfin, je pense que tout le monde voit ce que c'est la suspension d'incrédulité. C'est le fait, quand on est au théâtre, de se dire qu'on va arrêter de se poser des questions. Et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi c'est comme si, et pourquoi c'est comme ça. On se dit, bon d'accord, je vais me mettre à y croire à cette fiction-là qu'on joue sur la scène. Mais là d'un coup, plus personne n'en veut.
Plus personne, les dimanches, lors des repas de famille, dit « Ah, c'est comme ça, on n'y peut rien » face au JT de Jean-Pierre Pernaut. C'est vraiment cette fin de cette ère, à un moment où tout le monde se dit « J'arrête de croire, j'arrête de ne plus poser de questions. »
Et le plus fou dans tout ça, finalement, c'est peut-être pas cette farandole carnavalesque de tous ces noms qu'on vous a cités, d'alliances improbables, de gens qui se retrouvent sur les Champs-Élysées à deux pas l'un de l'autre alors qu'ils se haïssent sur les réseaux sociaux finalement. Ce qui est peut-être le plus étonnant et le plus intéressant et le plus dingue, c'est les primo-manifestants.
Ces personnes qui ne sont jamais venues dans un cortège, qui étaient autrefois invisibles, qui étaient justement ces spectateurs dans l'obscurité pendant Hernani et qui ont décidé de se lever, et qui se retrouvent d'un coup en pleine lumière, dans l'ordre justement du dicible, du visible et du faisable. Ce sont eux qui dictent les règles, les cadres de la fiction.
Et puis c'est Édouard Louis, du coup le grand écrivain de ces invisibles, qui a fait un petit thread sur Twitter pour expliquer... ce qu'il avait ressenti la première fois qu'il avait vu les images des gilets jaunes. J'ai du mal à décrire le choc que j'ai ressenti quand j'ai vu apparaître les premières images des gilets jaunes. Je voyais sur les photos qui accompagnaient les articles des corps qui n'apparaissent presque jamais dans l'espace public et médiatique. Des corps souffrants, ravagés par le travail, par la fatigue, par la faim, par l'humiliation permanente des dominants envers les dominés, par l'exclusion sociale et géographique. Je voyais des corps fatigués, des mains fatiguées, des dos broyés, des regards épuisés.
Ce mouvement doit continuer parce qu'il incarne quelque chose de juste, d'urgent et de profondément radical. Parce que des visages et des voix qui sont d'habitude astreints à l'invisibilité sont enfin visibles et audibles.
Et finalement, ce bouleversement pour les dominants, il a peut-être valeur de catastrophe.
Il essaye de l'interpréter comme une forme de folie, comme un débordement, les médias nous le présentent comme ça, qui serait justement de l'ordre de la maladie, mais d'une forme de rage, la rage des animaux, on les présente comme des enragés. Édouard Louis le fait remarquer aussi dans son thread, sont ceux qui grognent, comme si ces gens étaient atteints d'un mal presque surnaturel, qu'ils devenaient des genres de loups-garous jaunes dans une ambiance collective et contagieuse, une genre de fièvre jaune en fait.
Parler d'alternative alors qu'il était censé ne pas en avoir, c'est forcément être fou ou être en tout cas un danger pour l'ordre et la morale.
Mais il est important de maintenir le cap. Macron nous l'a dit hier, nous ne détricoterons rien de ce qui a été fait depuis 18 mois, dans une espèce d'entêtement qui finalement confine à la folie du côté de la fiction dominante.
Et pourtant, tout semble se barrer.
Et pourtant, oui, Édouard Philippe, tout à l'heure, a annoncé que le Sénat avait refusé la taxe sur les carburants et du coup qu'elle ne sera pas réintroduite au Parlement. Et du coup, c'est un recul du gouvernement. Donc, encore une fois, là, c'est la fiction dominante qui recule et qui se met au second plan. Et donc, tout le monde attend de voir la suite, attend samedi, finalement.
Et on ne sait pas comment va se terminer notre petite pièce. En tout cas, il y a un acte 4, polychromie.
Mais tous s'accordaient à reconnaître que le roi de jaune vêtu avait atteint le summum de l'art, et tous sentaient que la nature humaine ne pouvait supporter la tension, ni l'impact des mots dans lesquels se dissimulait l'essence du poison le plus pur. La banalité et l'innocence même du premier acte permettaient au coup de frapper, plus terrible encore.
Si tu dis que des mensonges, je reviendrai la semaine prochaine.
5000 grenades lacrymogènes ont été tirées sur le plateau.
Soit plus d'une par minute.
À Jardin, des mineurs en garde à vue pour avoir tagué Macron démission.
À Cour, des morts et des blessés.
De l'arrière-scène, s'avancent des personnels hospitaliers, des agriculteurs et des agricultrices.
Des étudiants et des étudiantes.
Des lycéens et des lycéennes.
Qui, à travers la fumée, ressemblent un peu à une forêt.
Ajouter avant de partir un petit remerciement à nos copains-copines de La Vie Manifeste pour cette jolie chanson que vous avez entendue tout au long de l'émission et merci à tous pour votre écoute.
Merci Thomas, merci Occitane.
Congratulations. Bonjour, c'est Zinedine Zidane et je lui souhaite un joyeux anniversaire.
Fidèle auditeur en Australie,
bonjour et joyeux anniversaire.
Voilà, c'était sur
Transistor.
Et c'était un des grands moments de l'histoire.
Merci beaucoup à tous les deux encore pour ce nouvel épisode de Solway et Coagula. Comment ne pas manquer les gilets jaunes, effectivement. Restez avec nous, puisque dans quelques minutes, vous allez pouvoir réentendre un morceau joué et chanté en live par Benoît et Claire. Puis, nous nous retrouvons à 20h pour le journal radiophonique Amplifié, qui durera une heure, comme vous en avez l'habitude, un jeudi sur deux sur Transistor, pardon Rémi. À 21h, on se retrouve pour En spectateur, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on parlera d'un certain monsieur Togbar. Puis, ce sera Passerelle, notre émission de cinéma d'étoiles plein les yeux. Le jeu pirate des poils plein les yeux, à ne pas confondre. Puis ce sera Maë qui nous ravira de son errance. Et enfin, Benoît et Claire qui s'installent dans le studio. Nous finirons la soirée sur encore un morceau. On a hâte de les écouter. Alors Benoît, Claire, est-ce que vous êtes prêts ?
Ouais, bien sûr.
Super, on vous écoute.